avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Olivier Drapé, bonjour.
Bonjour.
Vous vous intéressez de très près à l'influence des médias dans notre pays, mais la dénonciation du complotisme à laquelle on assiste, selon vous, depuis 2 ans, ne vous convainc pas du tout.
Alors, il faut bien évidemment savoir de quoi on parle. Il y a des thèses dites complotistes qui sont purement et simplement grotesques ou absurdes. Bien entendu, certaines personnes qui vont considérer que la Terre est plate et que tout est fait pour nous le cacher, ou des personnes qui nient l'effectivité, la réalité des attentats du 11 septembre 2001 ou qui considèrent que la CIA en est l'instigatrice, soutiennent des thèses indéfendables. Il n'y a aucun doute, mais en même temps, il serait absurde, comme certains semblent le considérer, de penser qu'il n'y a jamais aucun complot ni aucun conciliabule dont l'histoire pourtant est tissée et qui, aujourd'hui encore, du fait de la défense de certains intérêts par certains lobbies, du fait d'ambition et de volonté de conquête du pouvoir politique, sont omniprésents dans la vie politique et sociale. Non, de mon point de vue, la dénonciation un peu hystérique par moment du complotisme, qui est très à la mode depuis 2 ans, je crois, a pour objectif principal, le plus souvent, de disqualifier, de diaboliser certains adversaires ou certaines idées de manière à éviter tout débat de fond. Parfois même, il peut s'agir de diviser pour régner, c'est-à-dire qu'on va opposer entre eux de bons et loyaux citoyens raisonnables qui souscrivent donc, j'allais dire, aux thèses diffusées par les grands médias et défendues par le pouvoir, à d'affreux extrémistes, irresponsables, dangereux, ce qui risque d'aboutir à une sorte de totalitarisme soft, plus ou moins sur le modèle chinois, d'ailleurs un système de surveillance généralisée de la population avec une délation de la part des bons citoyens à l'encontre des mauvais citoyens. En tout cas, il s'agit souvent de disqualifier le discours qui n'est pas politiquement correct et il y a donc pour certains une vérité officielle qu'il serait interdit de contester, ce qui me pose effectivement et ce qui pose objectivement un problème, un réel problème. D'ailleurs, je me permets de citer un tweet du 14 novembre 2020 d'Edgar Morin, qu'on connaît bien, il a aujourd'hui 100 ans, sociologue et philosophe, qui dit « Toute contestation d'une affirmation officielle ou d'une croyance largement répandue est aujourd'hui considérée comme complotiste » et effectivement, je crois que c'est le cas.
Vous pensez donc que cette dénonciation du complotisme représente une menace ou un danger ?
Je le crois en effet. D'une certaine manière, il m'est arrivé à cette antenne d'évoquer un livre d'Ingrid Rieu-Creux qui s'appelle « Le langage des médias » qui est très intéressant, où elle expliquait que les accusations à l'époque de populisme, le mot complotisme n'existait pas encore, mais aussi les accusations de racisme, d'islamophobie, d'homophobie, permettent de transformer l'adversaire en ennemi tout en s'épargnant la peine de l'argumentation. C'est ce qu'elle écrivait dans ce livre. Et je crois aujourd'hui qu'il y a un problème et un danger pour la liberté d'expression, car finalement, il s'agit, pour lutter contre le complotisme, sous prétexte de lutter contre le complotisme, entre guillemets, de censurer certaines opinions qui sont considérées comme intolérables. Et il y a là un danger pour la démocratie. J'en suis absolument convaincu. Je suis également très méfiant, je dois le dire, à propos de la mise en place récemment par le président de la République, on est à quelques mois de l'élection présidentielle d'avril 2022 tout de même, d'une commission de lutte contre la désinformation et le complotisme, présidée par un sociologue, Gérald Bronner, qui n'est pas particulièrement neutre, si vous voyez ce que je veux dire, et qui est chargé de lutter sur les réseaux sociaux, notamment, je cite, « contre la diffusion des théories complotistes et la propagation de fake news sur Internet ». Alors, est-ce qu'on va maintenant considérer que l'État a la prétention de décréter le vrai et le faux ? Ce serait, à mon avis, un comble, quand on sait en particulier le nombre d'erreurs, parfois de mensonges, dont le gouvernement s'est rendu coupable, par exemple sur le port du masque ou sur bien d'autres problèmes depuis 2 ans dans la crise sanitaire que nous connaissons.
Vous considérez que les complotistes ou les prétendus complotistes ont parfois raison ?
Incontestablement, les faits ont souvent donné raison à certaines personnes qu'on a étiquetées réputée complotiste. Alors je prends un exemple. Le professeur Montagnier, Luc Montagnier, biologiste, virologue, prix Nobel de médecine tout de même, excusez du peu, a été traîné dans la boue pour avoir simplement affirmé que l'origine du virus du Covid-19 n'était pas naturelle, mais qu'elle résultait d'une manipulation de laboratoire, et on l'a traité de fou et de complotiste. Comme on l'a fait à l'égard des personnes qui défendaient cette idée. Il y a encore quelques mois, c'était le cas. Or, on sait maintenant, depuis effectivement simplement quelques semaines, je crois, depuis un rapport que l'Agence de santé américaine a publié, on sait effectivement que le laboratoire de Wuhan a été effectivement à l'origine de manipulation d'un virus, coronavirus. Alors c'est très intéressant de comparer justement ce qu'on voyait écrit en 2020 dans Libération. Théorie du complot, pourquoi les électeurs du Rassemblement national croient que le coronavirus a été inventé en laboratoire. France 24. Conspiration autour d'un labo à Wuhan, tous les chemins mènent à Steve Bannon. Le Monde, l'étrange obsession d'un quart des Français pour la thèse du virus créé en laboratoire. Eh bien, cette thèse, aujourd'hui, elle est quasiment confirmée par les milieux scientifiques. Le virus est très vraisemblablement issu par accident probablement, du laboratoire de Wuhan où il avait fait l'objet de manipulation. Alors, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Je vous disais que l'Institut national de la santé américain, montrait que les laboratoires de Wuhan avaient manipulé génétiquement des coronavirus, mais il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut donner. Il y a encore peu de temps, affirmer que l'immunité collective ne pouvait être atteinte par la vaccination massive était considéré comme complotiste, que le vaccin pouvait avoir de graves effets secondaires. Était considéré comme complotiste. Dire il y a quelque temps que le virus ne protège pas face aux variants, qu'il n'a qu'une efficacité très partielle, qu'il n'empêche pas un vacciné d'être contaminé et de contaminer les autres, était considéré il y a encore quelques mois comme complotiste. Dire que le pass sanitaire nous serait un jour imposé était considéré par une partie de la presse et des médias comme complotiste. Dire qu'il y aurait un jour ou l'autre une troisième, voire une quatrième dose imposée à la population était considérée comme complotiste, etc., etc. De même, on pourrait prendre un autre exemple que la crise sanitaire, mais il y a quelques années, affirmer, comme certains ont osé le faire, qu'il pouvait y avoir des terroristes islamistes dans les flots de migrants syriens, irakiens ou autres qui sont arrivés dans notre pays en 2015, au moment de l'attentat du Bataclan, était considéré comme scandaleux et comme complotiste. Or, c'est François Hollande lui-même au procès des terroristes du Bataclan qui a reconnu qu'effectivement, le gouvernement savait qu'il y avait des terroristes parmi les migrants qui arrivaient dans notre pays. Je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, une certaine prudence, une certaine retenue avant de considérer que tel ou tel lanceur d'alerte, en définitive, est complotiste.
Le complotisme n'est-il pas, malgré tout, l'apanage de l'extrême droite ou d'une certaine droite populiste ?
Alors c'est en partie vrai, mais il faut tout de même largement nuancer. Je prends un exemple intéressant. Aux États-Unis comme en France, la quasi-totalité des médias avait accusé Donald Trump d'avoir bénéficié, si vous voulez, du soutien de la Russie, de Poutine, pour se faire élire à la Maison-Blanche. On a même envisagé sa destitution. On sait, depuis la publication en avril 2019 du rapport du procureur Robert Mueller, qui est l'aboutissement d'une enquête qui a coûté des dizaines de millions de dollars et qui a duré très longtemps. On a aujourd'hui donc la confirmation d'une absence de charge contre Trump, et un certain nombre de documents qui ont été tout récemment déclassifiés confirment effectivement que c'était un fantasme pour ne pas dire peut-être une manipulation de la part des milieux proches à l'époque d'Hillary Clinton et des démocrates. Bon, alors il ne faut pas voir un coup des Russes partout, c'est un fantasme typiquement de gauche et une forme de complotisme de gauche qui est très fréquent. Au moment de la crise des Gilets jaunes, il y a 3 ans, il y avait un tweet de Jean-Michel Apathy du 16 décembre 2018 qui écrit, de façon caricaturale à mon avis, En fait, il y a une organisation souterraine cachée des tireurs de ficelles. J'estime que c'est un fantasme complotiste. Lorsqu'Emmanuel Macron, en janvier 2019, lui-même, voyait la main de Moscou dans la mobilisation des Gilets jaunes, en dénonçant la russosphère, ainsi que Marlène Schiappa d'ailleurs à la même époque, eh bien moi je considère que c'est une forme de complotisme ou peut-être de tentative de manipulation de l'opinion publique.
Si ce que vous dites est vrai, comment en est-on arrivé là ?
C'est une question que certains posent. J'ai un tweet intéressant qui est le suivant. Plutôt que de pester contre les Français qui auraient sombré dans le complotisme, ne serait-il pas plus utile de s'interroger sur les raisons de ce fait ? D'où vient la discréditation des institutions et de leurs paroles publiques, si ce n'est d'elles-mêmes ? Donc effectivement, il y a un problème, je crois, qui s'explique par un certain conformisme des journalistes et un certain politiquement correct des principaux médias qui ne correspond absolument pas à ce que les Français vivent et voient et observent. L'invocation, par exemple, d'un prétendu consensus scientifique concernant la stratégie vaccinale, la nécessité d'une vaccination massive de la population, etc., démontre une absence totale d'esprit critique. En fait, il y a vraiment un conformisme de la part de la presse qui est bien analysé, là aussi, par Ingrid Riocreux, que je citais il y a un instant. Ingrid Riocreux, dans le langage des médias, Ingrid Riocreux étant, je le rappelle, chercheure de l'Université Paris 5, elle écrit « C'est avec une bonne conscience absolue que le journaliste affirme, comme des vérités, un certain nombre de positions qui sont en réalité des points de vue. » Des opinions. Et elle poursuit de manière tout à fait exacte, je crois. Le journaliste est un croyant. Il ne se pose pas la question de savoir s'il est pour ou contre l'euthanasie, l'avortement, l'abolition de la peine de mort, le mariage homosexuel, la légalisation du cannabis, etc. Il sait que cela va dans le sens de l'histoire, que c'est inévitable et par conséquent, il soutient tout changement présenté comme positif parce que la raison lui dit qu'on ne peut pas aller contre l'histoire. Son discours s'émaille alors de ces petites indications temporelles qui sont censées nous permettre de situer tel pays sur l'axe du progrès. Je crois qu'effectivement, cette attitude de la presse et des médias, cette déontologie très particulière des journalistes aujourd'hui qui considèrent que leur mission est de faire barrage d'une certaine manière au populisme ou aux idées radicales qui, selon eux, menacent la démocratie, eh bien, aboutit à un résultat qui est bien connu, c'est-à-dire celui d'un sondage du mois de juin dernier qui me paraît très intéressant, selon lequel 67% des Français n'ont plus confiance dans la véracité des informations des principaux médias. Et puis il y a aussi, de la part des pouvoirs publics, souvent un manque de transparence qui pose question, qui fait qu'on se pose des questions. Le fait d'avoir classé secret défense toutes les décisions des conseils de défense sanitaire au sein desquels ont été prises les décisions du président de la République et du gouvernement sur la crise sanitaire, documents qui seront inaccessibles pendant au moins 50 ans, pose quand même question, si bien que ma conclusion, bien, ce sera finalement celle que je vois aujourd'hui dans La Croix Hebdo de la part du philosophe Marcel Gaucher, qui rappelle qu'en démocratie, tout peut être et tout doit être sujet à débat.
Merci Olivier Drapé.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescarre et Oloron, 05 59 59 67 92.